si tu étais là, si tu étais venu juste avant le temps,
les choses seraient autrement. En d'autres termes, tu viens en retard. Nous savons que tu es capable. Nous croyons en toi, mais tu viens en retard. Ça fait 4 jours. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut agir à temps. Il faut obéir à Dieu pendant qu'il est jour. Et c'est maintenant le moment d'obéir à Dieu. C'est pas demain. Ne dis pas quand je deviendrai grand. Vous savez, mon père, avant de mourir, il me disait toujours une phrase. Si je pouvais me convertir à ton âge, je ferais des miracles. Pourquoi? Parce que lui, il s'est converti, avancé en âge. Il n'avait plus de force que moi, j'ai. Et puis, il regardait comment nous nous jouons avec le temps. Il se disait, aïe, 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 6 mois à ton âge, je connaissais les seigneurs, je ferai des miracles. Le deuxième facteur, c'est le facteur lieu. Nous devons obéir à Dieu partout où nous sommes. Vous savez, il y a des gens qui obéissent à Dieu parce qu'ils sont seulement à Goma. Il suffit qu'ils quittent seulement Goma, c'est fini. Il y a d'autres qui obéissent à Dieu parce qu'ils sont au milieu des parents, au milieu des gens qui les connaissent. Mais lorsqu'ils sont là où les gens ne les connaissent pas, ils ne peuvent plus obéir à Dieu. Frères et sœurs, nous sommes appelés à obéir à Dieu en tout lieu, partout où nous sommes. Et parce que je parle du lieu, j'aimerais ouvrir une parenthèse par rapport au principe du lieu. C'est juste une parenthèse qui ne fait pas partie de notre enseignement. Dans Genèse 12, le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va là où je t'indiquerai. Et quand tu feras ça comme conséquence, je ferai quoi? Je te bénirai. Je me suis toujours posé la question, est-ce que Dieu était incapable de bénir Abraham là où il était? Pourquoi alors il le fait quitter? Hein? Est-ce que Dieu est capable? Il peut nous bénir partout. Ah, c'est pourquoi je vous donne ces principes. Je dis, ça ne fait pas partie de notre enseignement. La bénédiction de Dieu nous atteindra là où Dieu nous veut. Plusieurs personnes ne sont pas bénies parce qu'ils ne sont pas à la place, à l'endroit, au milieu où Dieu le veut. Regarde Élie. Élie, tu veux être protégé, il faut que Élie soit au torrent de Kérit. Et quand le temps des torrents de Kérit est fini, Dieu l'amène à un autre endroit, la maison d'une veuve de Sarepta. Je suis contre ces gens qui disent, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je fais quoi? Hein? Et on voit des gens en train de prier, non, Dieu m'a donné Goma, Dieu m'a donné Kinshasa, Dieu m'a donné Butembo, Dieu t'a donné tout. Non! Frères et sœurs, vous comprenez mal les Écritures. Je suis dans Josué chapitre 1, verset 3. J'aimerais que vous puissiez voir. Je vais vous montrer quelque chose. On nous a mal enseigné ces passages. On l'a mal compris. Que des gens sont prêts à maintenant tout prendre, tout goma, ils s'en approprient. Parce que tous les lieux où foulera la plante de mon pied, je fais quoi? Hein? J'aimerais que nous allions dans Josué 1, verset 3. Parce que si on n'y est pas, on risque de mal comprendre les Écritures. Est-ce que vous y êtes déjà? Vous y êtes déjà? Ok. Moïse vient de mourir. Dieu choisit Josué comme successeur. Et au verset 3, Dieu est en train de donner des instructions à Josué. Il lui dit, tout lieu où foulera la plante de votre pied, je fais quoi? Comme je l'ai dit à qui? Ok. Et c'est ce verset que nous utilisons souvent pour montrer que Dieu m'a donné Imbi, Dieu m'a donné IFGN, Dieu m'a donné Ndosso, Dieu m'a donné Keshero. Parce que tout lieu où je foulerai la plante de mes pieds, il fait quoi? Mais nous oublions que la Bible est complète. Regardez au verset 4. Quelqu'un peut me lire le verset 4 à haute voix? Hein? Ah, vous aurez pour territoire? Depuis le désert, le Liban, au verset 3, Dieu dit tous les lieux où verra la plante des pieds, je fais quoi? Mais regardez maintenant ce que Dieu fait au verset 4. Il limite les territoires. Ha! C'est là le problème de plusieurs. Frères et sœurs, la bénédiction de Dieu te trouvera dans les rayons d'action que Dieu a prévu pour ta vie. Il limite lui-même les territoires. Voici les limites. En d'autres termes, lorsque ton pied foulera dans les lieux que moi j'ai limités pour toi, alors je fais quoi? Je te donne. Mais si tu es dans les lieux où Dieu n'a pas déterminé pour toi, il ne te donnera. Église, on se comprend? Et regardez au verset 5. Lorsque tu vas respecter ces limites et que tu mets tes pieds dans ces limites, personne ne s'élèvera contre toi. Tu seras intouchable dans les sphères d'action que Dieu a prévues pour toi. J'aimerais dire à l'église, chacun de nous a un rayon d'action. Chacun de nous a son rayon. Dis à ton voisin, n'entre pas dans mon rayon d'action. Vous voulez que je vous le démontre bibliquement? Hein? La Bible nous parle de Jean-Baptiste. Comment la Bible est décrite? La voix qui crie dans... Et regardez lorsqu'il est dans le désert. Lorsque les militaires viennent, il dit, ah, ne volez pas les biens déjà. Est-ce que les militaires l'ont arrêté? Hein? Et regardez les messages dans le désert. Il dit, race des vipères. Imaginez, je me tiens ici, hein, pasteur Vincent. Et je commence à dire, race des vipères. On va dire que je suis impoli. Et lorsqu'il est dans le désert, personne ne les touche. Mais il fait une erreur. Le même travail, il va le faire en ville. Il oublie qu'il est la voix qui crie. Lorsqu'il va en ville, il voit le roi et il fait l'œuvre de Dieu. Il dit, oh roi, la femme que tu as n'est pas... Le roi dit, tu es dans mon rayon. Et comme conséquence, on l'a arrêté et on l'a décapité. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ont agi là à l'endroit où il ne fallait pas agir. Église, vous me comprenez? Il y a un lieu où chacun de nous peut exercer ce que Dieu a donné. Je prie que Dieu t'aide à connaître ces lieux-là. Et le plus souvent, quand tu arrives à ces lieux, il y a deux choses qui se passent. Il y a la facilité et il y a la rapidité. Tu ne comprends pas comment l'intégration se fait facilement et les choses sont rapides. Pourquoi? Parce que tu es dans ton rayon d'action. La troisième chose, c'est la manière. Frères et sœurs, il est important de suivre à la lettre la parole de Dieu, ne pas s'écarter. La manière, c'est très important. Moïse n'est pas entré dans la terre promise à cause de la manière. Dieu lui dit, parle au rocher. Mais Moïse, comme il était habitué à frapper, lui, il frappe au rocher. Ce qui a échoué, c'est la manière. Il a respecté, mais le problème, c'est que la manière, il n'a pas respecté la manière. Les temps, il a respecté. Les liens, il a respecté. Mais la manière, Dieu lui a dit de faire quoi? Parle au rocher. J'imagine, Moïse s'est dit, mais est-ce que le rocher va donner de l'eau en parlant seulement? Frères et sœurs, il y a des choses où tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as besoin de faire quoi? D'exécuter. Et les avantages qu'il y a d'obéir à la parole, premier avantage, c'est que lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, il nous bénit et fait de nous une source de bénédiction. J'aimerais déjà insister sur ce point. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas seulement nous bénir. Dieu veut faire de nous une source. Il dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie. Et lorsque Abraham obéit, non seulement qu'il est béni, mais il fait de lui une source. Et il dit, par toi, je bénirai les nations. Frères et sœurs, le Seigneur veut qu'il bénisse ta vie. J'aime ce passage de Luc, chapitre 5, verset 4 à 7. La Bible nous parle de la pêche miraculeuse. La Bible dit, Pierre a pêché toute la nuit et toute la nuit, il n'a rien trouvé. Et le matin, alors qu'il était en train de refaire ses filets, de les laver, fatigué, déçu de la nuit, il voit un monsieur qui vient et qui lui dit, Pierre, est-ce que tu peux me donner ta barque? Et ce monsieur, il commence à prêcher, il prêche, il termine à prêcher, il dit à Pierre, oh Pierre, est-ce que tu peux maintenant entrer dans les eaux profondes et essayer de pêcher? D'abord, il faisait jour. La pêche ne se fait pas la journée. Pourquoi? Parce que les poissons, quand ils voient le soleil, ils entrent dans la profondeur. C'est difficile de trouver le poisson. La nuit, quand ils voient l'obscurité, ils se disent, il n'y a personne, les poissons montent. Et Pierre regarde, il dit, Jésus, tu ne connais pas ça, c'est mon métier. Ton métier, c'est prêcher. Nous, nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien trouvé. Maintenant, la journée, tu veux nous demander de faire quoi? De pêcher. Mais j'aime Pierre. Il dit, mais si ta parole, je jetterai les filets. En d'autres termes, moi, je ne comprends pas ta technique. Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux me demander la journée. Mais parce que toi, tu dis, moi, je fais quoi? J'obéis. Je n'ai pas besoin de comprendre. J'ai juste besoin de faire quoi? D'obéir. Regardez, lorsque Pierre obéit à la voix de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il sent que le filet était lourd. Et regardez, il fait un renfort. D'abord, lui, il est béni. Et puis, il appelle ses amis, il dit, venez. Parce qu'il y a des bénédictions où, si moi-même, j'essaie de m'approprier, je vais me tuer. Venez parce que nous devons en partager. Frères et sœurs, lorsque nous baissons à la voix de Dieu, non seulement qu'il nous bénit, mais nous devenons une source de bénédiction. La deuxième des choses, et j'insiste par rapport à cette première chose, tu n'as pas besoin de comprendre. Les pourquoi et les comment ne te concernent pas. Toi, tu fais juste, hein? Obéis. Et Dieu fera les restes. L'obéissance à la parole de Dieu est la clé par excellence du succès dans notre vie. L'une des choses qui nous donne le succès, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et ce qui est encore mieux, c'est que l'obéissance à la parole de Dieu nous rend heureux, épanouis. Deutéronome 29, verset 9, la Bible affirme et dit ceci. Vous observez donc les paroles de cette alliance et vous les mettez en pratique. Et pourquoi? Enfin, que vous réussirez dans tout ce que vous ferez. Psaume 1, verset 1 à 3, j'aime beaucoup ce passage. Il dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est heureux cet homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. J'aimerais dire à l'église, le vrai bonheur, c'est lorsque nous appliquons la parole de Dieu. J'insiste et je répète, le vrai bonheur, c'est lorsque nous appliquons la parole. Dans Jean 13, verset 17, Christ lui-même dit à ses disciples, Jean 13, 17, il dit, si vous savez ces choses, c'est-à-dire mes paroles, vous êtes heureux. Mais il ajoute quelque chose de très important. Pourvu que vous les pratiquiez. Si vous entendez ces choses, vous êtes heureux. Mais pourvu que vous les pratiquiez. Jacques chapitre 1, verset 25. La Bible dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais mettant en pratique à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Est-ce que vous savez que même bien finir sa vie sur terre n'est pas seulement question de bien manger, de bien vivre, mais c'est aussi question d'obéissance à la parole de Dieu? Dans Job chapitre 36, verset 11 à 12, Job 36, 11 à 12, la Bible dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur. Job 36, 11 à 12. S'ils observent, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leurs années dans la joie. Mais si et seulement ils font quoi? Ils écoutent et se soumettent. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par les glaives et ils expirent dans leur aveuglement. En 2009, le 29 mai, c'est une date que je n'oublierai pas, parce que c'est à cette date que mon père est mort. Quelque chose s'est passé une année avant cette date. un de mes frères qui est pasteur en Liège est rentré au pays. Mon père ne demandait jamais. C'est le genre de parents, même s'il a un problème, il ne vous disait jamais. Mais cette fois-ci, ça nous a étonnés. On était en famille. Et papa qui dit à mon grand frère qui vit en Liège, lui dit, est-ce que tu peux me donner de l'argent? Mon grand frère s'est dit, bon, comme papa me demande de l'argent et que c'est la première fois, mieux faut que je lui donne quelque chose de précieux. J'aimerais dire aux enfants, souvent quand les parents font des gestes, ce sont des gestes très prophétiques qui font répondre directement. Alors mon grand frère s'est dit, non, non, je vais lui offrir une parcelle, je vais lui offrir une maison. Et lui a dit, l'année prochaine, quand je reviendrai, je ferai quoi? Je te donnerai quelque chose de précis. Papa dit, c'est maintenant que j'ai besoin. Donne-moi tout ce que tu as dans la poche. Et lui, il a insisté, l'année prochaine, papa. Papa lui a dit, l'année prochaine, quand tu reviendras, tu viendras voir ma tombe. Et nous, on a blagué, on a crié, aïe, aïe, aïe. Ça, c'est juste un vieux qui parle. Est-ce que vous savez que mon père savait le jour, la date et l'heure de sa mort? Il est tombé en coma un dimanche. Le mardi, il est sorti du coma. Il nous a dit, je vais mourir vendredi à 9h. On a rigolé. Le médecin a dit non, parce que mon père n'est tombé jamais malade. Il a dit, peut-être comme c'est la première fois qu'il se retrouve hospitalisé, c'est pourquoi il peut dire. De mardi à mercredi, jeudi, il n'a fait que nous dire le problème de la famille. Il y a ça, faites ceci, il y a ça, faites ceci. Et le jeudi, je lui dis au revoir parce que vendredi, il fallait que je vienne. Samedi, j'avais examen. Et au moment où j'étais dans le bateau, je reçois à 9h juste, papa vient de nous quitter. J'ai dit, c'est pas possible, mais hier, il parlait bien. Et pourtant, le matin, je l'ai appelé. Il a bien causé avec moi et encore, il m'a dit, si tu attends encore quelques heures, tu vas assister à mon départ. Et c'était comme une blague, on s'est dit. Parce que nous, on savait vendredi, il va quitter l'hôpital ou samedi. Il est possible de bien finir, bien ses jours, quand on écoute la parole de Dieu. Je vis un homme, j'ai appris auprès de mon père, un homme qui lisait sa parole. Il lisait la parole, sa Bible, si vous la voyez, elle est toujours colorée. Chaque jour, il lisait la parole de Dieu. Il avait le temps de prier, de chercher la face de Dieu. Imaginez quelqu'un qui connaît son jour. Celui-là, il sait comment il est mort. Il a bien arrangé sa vie. Pourquoi? Parce qu'il met en pratique la parole de Dieu. L'obéissance à la parole, troisième chose, elle est la clé à l'exaucement de nos prières. Frères et sœurs, vous avez beaucoup de prières. Si vous voulez que Dieu exauce ces prières-là, soyez juste obéissant à la parole de Dieu. Un des grands obstacles à nos prières, à l'exaucement de nos prières, c'est la désobéissance. Aller à la contre de sa parole. Esaïe dit dans Esaïe 59, 1 à 2, il dit, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher, son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais il ajoute, ce sont vos péchés, vos crimes, votre désobéissance qui empêche Dieu de faire quoi? D'agir. Je suis dans 1 Jean 3, verset 22. 1 Jean 3, verset 22. Jean dit ceci. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui. Pourquoi? Je suis dans 1 Jean 3, 22. J'aimerais que chaque fois que je cite un passage, que vous y allez rapidement. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui. Pourquoi? Il n'y a pas quelqu'un qui est déjà là. Hein? Parce que nous gardons ses commandements et puis il ne s'arrête pas par là. Et nous faisons ce qui lui est agréable, c'est-à-dire non seulement que nous gardons ses commandements, mais nous obéissons aussi à ses commandements. Plusieurs, leurs prières ne sont pas exaucées tout simplement parce qu'ils n'obéissent pas aux commandements de Dieu. Ils ne gardent pas ses commandements et ils ne font pas des choses qui sont agréables à Dieu. Frères et sœurs, même si vous gênez, Dieu ne répondra pas. Vous savez, il y a des gens qui ont fait des jeûnes une pression. Ils veulent montrer à Dieu, je veux que tu agisses. C'est pas ton jeûne qui va faire à ce que Dieu puisse agir. D'ailleurs, le jeûne doit être l'expression de notre obéissance à Dieu. Arrêtons de faire des prières de pression. Dieu, on ne lui fait pas la pression. C'est notre Père. Commençons à obéir à sa parole et lui répondra. L'obéissance. L'obéissance et encore l'obéissance à la parole de Dieu. Faire ce que Dieu exauce nos prières. Quatrième avantage, c'est que l'obéissance à la parole de Dieu nous rend inébranlables. Elle nous enracine en Christ. Christ dit ceci dans Matthieu 7, verset 24 à 25. Matthieu 7, verset 24 à 25, il dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Le verset 25 ajoute ceci, « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. » Parce qu'elle est, elle est basée sur quoi? Sur le roc. Quand quelqu'un ne pratique pas la parole de Dieu, quand quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est un chrétien flottant, emporté par n'importe quel vent. Et je vis des chrétiens comme ça, qui sont à la recherche de la bénédiction. Comme il attend à Goma West, il y a un séminaire, il vient chercher la bénédiction. Je ne refuse pas. Nous devons aller nous ressourcer là où il y a la parole de Dieu, mais nous ne devons jamais chercher la bénédiction de Dieu. Parce que la Bible dit, il ordonnera que la bénédiction nous accompagne, et non nous de chercher la bénédiction. Et lorsque tu obéis à la parole de Dieu, il ordonne à ce que cette bénédiction t'accompagne. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, nous n'avons pas de chrétiens enracinés, enfermés en Christ, tout simplement parce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous n'avons pas le temps avec la parole de Dieu. Je prie que Dieu nous donne des chrétiens dont leur foi est basée sur Jésus-Christ, la parole de Dieu. Nous ne pourrons être enracinés en Christ que lorsque mon frère et ma sœur, nous écoutons cette parole et nous la mettons. Cinquième avantage, c'est que l'obéissance à la parole de Dieu aide à protéger l'alliance de Dieu sur nos vies. Parler de l'alliance revient à parler des promesses, des devoirs que nous avons vis-à-vis de Dieu. Avoir la promesse de Dieu ne suffit pas. Il faut obéir à sa parole. Et c'est lorsque tu obéis à sa parole que tu gardes cette alliance avec Dieu. Écoutez ce que dit la Bible dans Deutéronome 7, 12. Deutéronome 7, 12. Il dit, si vous écoutez ces ordonnances, la parole de Dieu, si vous les observez et vous les mettez en pratique, alors voici ce qui arrivera. L'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Frères et sœurs, ça ne sert à rien de dire, non, Dieu m'a dit ça, que je serai ceci, que je serai cela. Frère, pour que Dieu accomplisse ces choses-là, il va falloir que tu obéisses à la parole de Dieu. J'aimerais dire à l'église, à chaque promesse de Dieu, s'attache une recommandation ou un principe de Dieu. Il dit dans Deutéronome, si tu obéis, si tu fais ceci, et comme avantage, ce sont les promesses que Dieu donne. Il n'y a pas de promesses de Dieu sans un si, sans une recommandation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous nous contentons des promesses de Dieu, mais nous ne voyons pas les recommandations. Nous n'obéissons pas aux recommandations. Nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons des chrétiens qui disent, nous serons la tête et non. Et puis quand tu les regardes, ils sont la queue. Obéissez aux principes
de Dieu.
Sixième avantage, c'est que la longévité n'est pas juste une affaire de la bonne nutrition. C'est aussi une affaire d'obéir à Dieu. Tu veux vivre longtemps. Tu veux avoir une bonne vie. Commence par obéir à Dieu. Deutéronome chapitre 6. Verset 1 à 3. La parole de Dieu dit ceci. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je t'ai prescrits, afin que tes jours soient. Ah, c'est ça le problème. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui meurent tôt parce qu'ils n'obéissent pas seulement à Dieu. Frères et sœurs, si vous obéissez aux lois de Dieu, Dieu fera à ce que tes jours soient. Verset 3, il dit, si tu les écoutes donc Israël, tu auras soin de mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Frères et sœurs, lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, vous devenez une source de multiplication. Et Dieu vous rend heureux et fait à ce que tes jours soient longs, que vous ayez de longs jours sur terre. Septième avantage, c'est que l'obéissance à la parole de Dieu nous justifie et nous donne accès à la vie éternelle. L'obéissance à la parole de Dieu nous justifie et nous donne accès à la vie éternelle. Romains chapitre 2, verset 13. L'apôtre Paul est en train de dire quelque chose que j'aime. Romains 2, verset 13. Il dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Mais ce sont ceux qui les mettent en pratique qui seront justifiés. J'aimerais encore le répéter à cette église. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Mais ce sont ces hommes et ces femmes qui mettent en pratique qui sont. Frères et sœurs, tout ce que je nous dis cette semaine, si vous ne le mettez pas en pratique, vous ne serez jamais justifié devant Dieu. Mais lorsque vous le mettez en pratique, alors vous êtes. Jésus est en train de parler sur la vie éternelle. Écoutez ce qu'il dira dans Jean 8, verset 51. Jean 8, verset 51. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais de mort. C'est-à-dire, il aura la vie éternelle. Le royaume des cieux est fait pour les hommes et les femmes qui pratiquent la parole de Dieu. Je me vais nous inviter à aller dans Matthieu chapitre 13. C'est un long passage. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule s'était née sur les rivages. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle va aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécher. Et sécha à faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et les touffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre. Et elle donna du fruit et un grain de 100 et un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur partir en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il y a... Il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, en entendant, ils n'entendent pas ni comprennent. Et pourrait s'accomplir cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'attendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne leur guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes, des justes, ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malheur vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui attend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines à lui-même, il manque la persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui attend la parole, mais à qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole de Dieu et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100 et un autre 60 et un autre 30. Jésus nous parle de quatre types d'hommes face à la parole de Dieu. Quatre types d'hommes face à la parole de Dieu. Et lorsque je parle de ces quatre types, j'aimerais que chacun de nous s'identifie. Il fait partie de quel type d'homme? Le premier type d'homme, ce sont ces hommes qui entendent la parole de Dieu. Ils se limitent juste à entendre la parole de Dieu, mais ils ne la pratiquent pas. Ce sont ces gens dont la semence est jetée au bord du chemin. Et ces gens, ils viennent souvent dans nos églises. Ils sont sur les bancs de nos églises. Ils écoutent. Et ils aiment, ah, ces prédicateurs-là, ils prêchent bien. C'est déjà des personnes qui vous diront, oh, aujourd'hui on a été... Mais vous avez été bénis par quoi? Oh non, les prédicateurs-là, ils prêchent bien. Mais après, ils se limitent juste à faire quoi? À écouter. Et les diables s'arrangent pour qu'ils ne mettent pas en parole. Après avoir quitté l'église, ils leur volent tout ce qu'ils ont reçu. Vous savez, il y a des gens ici, ils se souviendront toujours des blagues que moi j'ai fait. Moi j'aime souvent des fois blaguer dans les prédications. Et quand ils sont là, ah, ce prédicateur disait ça, ça, ça. Mais qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que ça a augmenté à ta foi? Rien du tout. On a passé, on a été bénis. Mais comment? Parce qu'il ne pratique pas, il écoute simplement. Il y a d'autres, et c'est le deuxième type de prédicateurs, de chrétiens, ou des gens face à la parole de Dieu. Ce sont ces gens qui écoutent la parole de Dieu. Ils veulent coûte que coûte le mettre en pratique. Mais ils ont un problème, cette semence s'est tombée sur les pierres. Et ils n'ont pas la persistance. Ce sont des chrétiens qui aiment la vie facile.
Il n'aime pas la persécution. Il n'aime pas les problèmes. Ils viennent au Seigneur, non pas parce qu'ils veulent que Dieu fasse, parce qu'ils veulent connaître Dieu, mais parce qu'ils veulent que Dieu fasse quelque chose pour eux. Ils viennent à l'église parce qu'ils veulent le mariage. Ils viennent à l'église parce qu'ils veulent la promotion. Ils viennent à l'église parce qu'ils veulent la bénédiction. Au fait, ils désirent les choses de Dieu dans la facilité. Mais ils ne veulent pas de persécution. Ce sont les genres de personnes que lorsque vous parlez sur la persécution, ils ne disent jamais Amen. J'en ai parlé le dimanche et je nous ai dit une vérité. Si on vous a prêché qu'en venant à Christ que les choses vont changer, on vous a menti. Parce que les gens viennent à Christ croyant que tout va changer. Non. La vie restait telle qu'elle est. Le ciel reste bleu. Les problèmes restent là. Mais tu as une grâce, c'est que tu n'affrontes plus les problèmes seul, tu l'affrontes avec Jésus. Or, le plus important dans les moments difficiles, ce n'est pas de connaître le pourquoi des choses, mais c'est de se rassurer si vous êtes avec Dieu. La Bible dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Regardez dans Esaïe, il dit, lorsque vous traverserez le fleuve, les eaux ne vous submergeront point. Lorsque vous traverserez le feu ne vous consumera point. Pourquoi? Parce que je suis. Frères et sœurs, le plus important n'est pas de savoir le pourquoi, la cause des choses. Le plus important, c'est de vous rassurer, est-ce que je suis avec Dieu? C'est pourquoi Jean a dit, celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ce sont les chrétiens qui viennent, mais ils ne veulent pas passer par le chemin de brisement. Ils veulent que tout soit facile. Et les gens de ces chrétiens, ils sont très jaloux de la bénédiction des autres. Parce qu'ils regardent, ils disent, Seigneur, pourquoi tu as béni le pasteur Vincent? Tu peux me bénir moi aussi. Ils veulent être comme le pasteur Vincent, mais ils ne veulent pas passer par les chemins par lesquels il est passé. Frères et sœurs, si vous voulez ma grâce, si vous voulez mon onction, acceptez aussi de passer par le chemin par lequel je suis passé. Le plus souvent, les gens nous regardent, ils nous envient, mais ils ne savent pas toujours par où nous sommes passés. Frères et sœurs, je suis passé par des chemins difficiles. Je n'oublierai jamais. Moi, quand on venait chasser les autres élèves, on ne regardait plus dans les registres parce qu'on savait celui-là, il est insolvable. L'autre, on lui demande ton nom, c'est qui casserait car, ok, on peut regarder. Ah, tu n'as pas encore payé, c'est moi, tu restes. Mais toi, sors déjà. Je me rappelle ces moments où je priais et j'avais l'impression comme les plafonds venaient juste devant ta bouche. C'est comme si tout ce que tu dis, c'est s'arrêter juste là au plafond. Ça n'avançait pas. Tu viens à l'église, tu as l'impression que Dieu exauce seulement les prières des autres, mais pas tes prières. Je me rappelle de ces temps-là. Je me rappelle des moments où j'ai eu à prier. Frère, il y a eu des temps où je suis parti chez les cordonniers, et les cordonniers lui-même me dit, mais on a longtemps, on a fait passer partout, frère. C'est sûr que je ne saurais plus. Il y a des moments où, parce que moi j'ai grandi à Bukavu, il y a la boue. J'avais une soulier qui était trouée ici en bas. Alors chaque fois que je sortais, j'ai dit, je vais aller visiter. Et qu'il plaît. Parce que si tu mets sur le ciment, ça montre directement comment le soulier est. Et si tu enlèves là, c'est un dégât parce que l'eau est entrée dans les chaussettes. Accepte le chemin du brisement. N'accepte pas la facilité. Laisse Dieu te façonner. Troisième catégorie, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Mais ils sont tourmentés par les siècles présents. Ils veulent les choses de ce monde. Ils désirent les choses de ce monde. Ils préfèrent abandonner la parole de Dieu que de s'attacher à cette parole-là. Ils veulent les choses de ce monde. C'est ce genre de chrétiens qui viennent à l'église, mais ils sont encore dans la corruption. Ils veulent coûte coûte gagner la vie, gagner, avoir l'argent. Ils sont malades car ils n'ont pas l'argent. Vous savez, il y a des gens qui sont malades juste parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et La dernière catégorie, ce sont des hommes. La semence est tombée sur une bonne terre. Et ils ont reçu la parole de Dieu. Et ils ont grandi. Et ils ont produit des fruits. Ce sont des chrétiens qui produisent des fruits. Et c'est cette quatrième catégorie que nous désirons dans notre communauté, dans notre église. Des hommes qui produisent des fruits. Je voudrais m'arrêter par là aujourd'hui. Nous allons conclure ce message demain dimanche. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Tel que Dieu t'a parlé aujourd'hui, nous n'allons pas faire un appel. Je veux voir des hommes qui prient à Dieu, qui vont dire à Dieu, je veux que je sois une bonne terre. Je veux que je sois une bonne terre. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu, dire, Seigneur, je veux être une bonne terre. Sur qui la parole de Dieu est annoncée, et que lorsqu'elle est annoncée, elle grandit, elle produit des semences, de bonnes semences. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Cette quatrième catégorie, ce sont des hommes qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, qui acceptent de payer les prix. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, j'accepte de payer les prix. J'accepte même de perdre ce travail pourvu de mettre en pratique ta parole. J'accepte, oh Dieu, d'être haï par le monde pourvu de mettre en pratique ta parole. J'aimerais que quelqu'un prie le Seigneur ce matin, que quelqu'un dise à Dieu, aide-moi, soutiens-moi. Ce matin, j'ai entendu ta parole. Je prie que tu me soutiennes. Je prie que tu me soutiennes, que je sois une bonne terre sur laquelle ta semence est jetée, Jésus. Seigneur, enlève à moi l'envie des choses de semence. Enlève à moi l'attachement aux choses de semence. Que je puisse t'aimer plus que toute autre chose. Que je ne puisse pas aimer l'argent, que je ne puisse pas aimer, oh Dieu, le jour de ce monde. Je veux m'attacher à toi, que je ne puisse pas chercher la gloire, que je ne puisse pas chercher l'approbation des gens. Seigneur, ce matin, je prie pour ma vie, je prie pour moi-même. Est-ce que quelqu'un veut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un veut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa bouche et dire, Seigneur, je voudrais être un chrétien qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Ce matin, Seigneur, nous prions ici à Goma Ouest et nous t'appelons. Seigneur, soutiens-nous par ta main. Aide-nous à mettre en pratique ta parole, Jésus. À quoi servira, oh Dieu, de faire une semaine? Chaque matin, on venait ici, on laissait nos lits, on laissait notre confort pour venir t'écouter. À quoi servira, oh Dieu, si nous ne mettons pas ces choses en pratique? Seigneur, je ne veux pas que ces choses restent seulement dans mon agenda. Je veux vivre ces choses. Je veux vivre ces choses. Je veux te respecter. Je veux t'honorer. Je veux vivre ta parole. Je veux vivre ta parole. Je veux vivre ta parole. C'est ma prière, Jésus. C'est ma prière, Jésus. Je te le demande de tout mon cœur. Je te le demande de tout mon cœur. Seigneur, aide-nous. Je voudrais que nous puissions nous tenir debout, Église. Nous nous tenons debout là où nous sommes. Nous allons prier ce matin. Je sens dans mon cœur que nous puissions prier ce matin. Je sens dans mon cœur que nous puissions prier ce matin. Quel type d'homme est-il par rapport à la parole de Dieu? J'aimerais que tu tiennes juste la main d'une personne. Je dis bien la main d'une seule personne. Une seule personne. Rassure-toi que tu tiens la main d'une seule personne. Tu vas prier pour cette personne que tu tiens à la main. Tu vas dire, Seigneur, qu'il ne soit pas un auditeur oublié, mais qu'il soit un pratiquant de ta parole. Tu vas prier pour ton frère, pour ta soeur, comme si tu priais pour ta propre vie. La Bible dit, priez les uns aux autres. Commence à prier, prie pour ton frère. Seigneur, je prie pour cette couronne. Je demande au Dieu que tu nous donnes des confiances, qui te craignent, qui écoutent ta parole et qui t'a mis en pratique. Seigneur, je prie pour les pasteurs de cette église. Je prie pour les anciens de cette église. Seigneur, je prie pour les intercesseurs de cette église. Seigneur, je prie pour les diacres de cette église. Seigneur, je prie pour les papas de cette église. Seigneur, je prie pour les mamans de cette église. Seigneur, donne l'église des hommes et des femmes qui écoutent ta parole et qui la mettent en pratique. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Ce matin, nous élevons nos voix vers ton trône, oh Dieu. Donne-nous une église des hommes et des femmes qui écoutent ta parole et qui la mettent en pratique. Seigneur, c'est ma prière. Seigneur, c'est ma prière.
Prie pour ton père. Ne te fatigue pas. Demande la grâce de Dieu. Que Dieu l'aide à vaincre ses frères. Que Dieu l'aide à tenir pendant les moments de ses frères. Tu vas dire, Seigneur, je prie pour mon frère. Pour qu'il ne puisse pas abandonner à cause des problèmes, à cause des difficultés. Tu vas dire, Seigneur, je le recommande à ta grâce. Que chaque fois tu connaîtras les temps pires, Seigneur, que tu le relèves, que tu le soutiennes, que tu sois présent dans sa vie. Que tu sois présent dans sa vie. Que tu sois présent. Que tu sois J'aimerais que tu fasses une dernière prière pour ton frère et ta soeur. Je ne sais pas pourquoi je le sens, mais je sens qu'après ce message, qu'il y a des gens qui seront obligés de prendre des décisions. Et des décisions qui vont les coûter. Alors tu vas prier et dire, Seigneur, aide à mon frère à obéir à ta parole, peu importe le prix à payer. S'il va perdre ses travails pour t'obéir, qu'il les fasse. S'il va perdre ses avantages pour t'obéir, qu'il les fasse. Ça ne sera pas facile. Ça sera difficile. Il y a des gens même qui vont commencer à les pratiquer aujourd'hui. Il y a des gens qui rentreront au travail pour dire, je n'accepte pas tel avantage parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Nous allons prier et dire, Seigneur, aide-nous à payer les prix. Peu importe ce que ça va nous coûter. Peu importe ce que les gens vont dire de nous. Peu importe ce que les gens vont hurler sur nous. Prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à payer les prix. Aide-nous à payer les prix, Jésus. Aide-nous à payer les prix, Jésus. Peu importe ce que ça va nous coûter, que nous puissions t'obéir. Même quand les hommes ne vont pas nous comprendre, que nous puissions t'obéir. Même quand les hommes ne vont pas comprendre à quoi est-ce que nous sommes, que nous puissions t'obéir. C'est ma prière ce matin, c'est la prière de mon frère, c'est la prière de cette église, Seigneur. Donne-nous les hommes et les femmes qui sont prêts à payer les prix. Les hommes et les femmes qui sont prêts à payer les prix, Hallelujah. Hallelujah. Seigneur, jusqu'au bout, je vais te suivre. Je sens que nous puissions chanter ces cantiques, nous nous lâchons demain. Si la chorale peut nous aider à chanter ces cantiques jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais chemins. À toi pour mourir et vivre. Je sens ces cantiques monter et ça sera une prière. Il y a des gens qui vont s'engager ce matin encore. Il y a des gens qui vont prendre de nouveaux engagements. Nous n'allons pas inviter quelqu'un ici devant, mais lorsque nous chantons, que quelqu'un dit, si tu avais déjà perdu la vie de méditation, que tu dis, Seigneur, restaure.
si tu avais déjà perdu la vie des prières, que tu dis Seigneur, restaure. Si tu étais au point de lâcher, tu vas dire Seigneur, aide-moi à ne pas lâcher. Si tu avais déjà abandonné le Seigneur, c'est le temps aussi de revenir à Dieu. Dieu ne me demande pas de faire un appel, mais j'aimerais que ça soit un engagement personnel et individuel. Et c'est important en cet instant. Est-ce que la chorale peut nous entonner ce cantique?
Seigneur m'appelle, toi ta croix.
Et viens sur moi.
Et viens sur moi.
Je réponds. Seigneur, je reviens. Et je prends un nouvel engagement de te suivre jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Même si je suis injurié, même si c'est difficile, même si c'est pas facile. Seigneur, même si je serai seul, j'accepte de te suivre. Est-ce que quelqu'un peut prier et dire Seigneur, accorde-moi une bonne fin que les commencements. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce matin, je sens dans mon cœur que nous puissions prier pour notre fin. Tu vas dire Seigneur, aide-moi à bien finir la course. Aide-moi à être chrétien jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Je vais inviter les pasteurs à venir prier pour toute l'église.
Béni soit ton nom, Seigneur. Pour ces paroles ce matin que tu nous adresses, paroles de vie qui donnent la vie, paroles qui procurent la stabilité, la sécurité. Parole qui promet le bonheur, le succès dans tout ce que nous allons entreprendre, pourvu que nous soyons des hommes et des femmes obéissants. Nous prions, Seigneur, que tu inclines les cœurs des fils et filles qui t'appartiennent au sein de cette Église à t'obéir dans tous les aspects de leur vie. Nous prions, Seigneur, que tu aies chacun en prendre conscience combien de fois il a écouté la parole, il n'a pas obéi. Combien de fois il a eu des occasions qu'il a manqué parce que tout simplement il n'a pas obéi. Combien de fois, Seigneur, il y en a qui perdent le temps en faisant ceci ou cela, mais n'ont pas le temps pour ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu viennes à leur secours. Tu viennes au secours de ton peuple pour l'aider à comprendre la centralité de ta parole dans la vie chrétienne. À réaliser combien cette parole est importante pour qu'on naisse de nouveau, mais aussi pour la croissance spirituelle et toute la vie du croyant. Bénis ton peuple, Seigneur, permet que ce jour soit un nouveau départ. Où chacun prend conscience et met à part un temps chaque jour de méditer ta parole, mais surtout de la mettre en pratique. À quoi ça sert de la lire? À quoi ça sert de passer du temps à méditer ou à écouter sans mettre cette parole en pratique? Nous prions que tu nous aides, Seigneur, afin que, comme nous venons de chanter, et jusqu'au bout nous voulons te suivre dans les bons et les mauvais jours, nous puissions continuer à nous laisser éclairer comme une lanterne par cette parole de vie. Bénis ton peuple, soutiens-le dans ces nouveaux engagements qu'ils sont en train de prendre et permettent que nous puissions voir de nos propres yeux, toucher de nos propres mains, que tu as visité ton peuple. Béni soit ton nom. Donc Jésus, te prions. Amen.